Nous allons reprendre donc le colloque qui va donc suivre par quatre interventions. Je vais introduire, pour ma part, je vais engager un décentrement finalement par rapport à cette question de la picturalité que nous avons abordée dans la première séance, en engageant le débat sur la question de la ville comme domaine. Comment finalement, à partir de l'identité de Steyl, naît une idée de la ville? Comment appréhender l'hétérogénéité des propositions urbaines publiées dans la revue dès 1917? Comment qualifier et spécifier les modes de relation et les modes de résolution urbaine compte tenu de l'éclatement des acteurs et comme celui des situations urbaines? Le groupe, comme vous le savez, dès sa création est pris dans la tension entre d'une part la question de la mutation de la ville industrielle et d'autre part l'invention, à proprement parler, d'une nouvelle image de la métropole. Alors même que le groupe cherche à sortir d'une certaine manière l'aliénation du modèle d'Amsterdam, vous savez que Amsterdam subit également un grand plan d'extension à partir de 1910-1920, Michael White a présenté des images de cette continuité d'Amsterdam avec Berlag dans un premier temps, puis ce qu'on appelle l'école d'Amsterdam, contre lequel finalement se positionne de Steyl, ou face auquel se positionne de Steyl. Entre les années de formation du mouvement de Steyl, 1917-1920, et la fin des années 20, où la ville fonctionnelle de Cornelis van Esteren est à l'œuvre, la plateforme collaborative de Steyl contribue à décrire un territoire urbain, industriel et en mutation, nomme un champ de recherche, un domaine, celui de la ville. L'exposition des arts décoratifs qui a lieu à Paris en 1925 est un tournant décisif certainement pour cette question. Alors que Le Corbusier présente dans le pavillon de l'Esprit Nouveau une résolution radicale, le plan voisin, le plan pour Paris, Frédéric Kissler, l'artiste autrichien, formule un programme, une ville spatiale et en figure les stratégies formelles. Cette dualité, finalement, entre un état précis des nécessités pratiques posées sur le plan, d'un côté, et la production d'une image conceptuelle de la ville, se trouve aux origines, ou en tout cas est constituante du projet de Steyl. L'architecture doit être fonctionnelle, certes, économique, certainement, constructible, évidemment. Beaucoup sont ceux qui ont répété ces impératifs sans néanmoins prendre pleinement conscience que le rationalisme, l'extrême économie de moyens et le fonctionnalisme ne peut être atteint sans le désir ancré dans une nouvelle conscience. Cette conscience dont parle Van Desbourg est collective et produit des instruments de connaissance et des stratégies de production de la ville. Mon exposé va s'organiser à partir finalement de cinq idées qui jalonnent, cinq thèmes qui jalonnent cette question de la ville pour les acteurs du groupe de Steyl. Ce premier thème est l'idée de la ville monumentale. Cette question de la ville monumentale est présente dans les revues, dans les colonnes de la revue de Steyl dès 1917, à la création de la revue, et est portée dans la revue par l'architecte Jacobus Johannes Peter Hood. Et qui en définit clairement les enjeux. L'image, la conception monumentale de la ville, engage des principes de composition et de géométrie dont découle ce concept de monumentalité. Clairement familier du plan de Berlag de 1905, Hood aborde le concept de la Stadtbild, c'est-à-dire de l'urbanisme finalement, de la conception urbaine, par cette dualité qui fait se croiser la question de la perception, de l'image de la ville, son apparence, voire son imagerie, à celle de sa planification, c'est-à-dire de son organisation. Le concept de monumentalité n'a rien à voir avec une question d'échelle, des grands bâtiments, des petits bâtiments, ni même avec l'idée baroque du bâtiment cible. Au contraire, il procède pour Hood de façon claire et définitive de la morphologie du bloc de logement. L'enjeu pour Hood est non seulement l'homogénéisation de la rue, mais également la définition de la rue comme une unité élémentaire du vocabulaire de l'urbanisme. La question du plan urbain est la rencontre des dispositions internes du logement, la cellule, la fameuse cellule moderne, qui, multipliée et juxtaposée, donne corps à l'architecture de la rue. Les dessins en illustration de cet article de 1917 dans la revue de Steyl sont une visualisation concrète et explicite de cette question. Conçu hors d'une commande spécifique, le projet de Strandboulevard, que je vous présente ici, dont je vous présente ici les esquisses, est une démonstration générique de ce que Van Despoor qualifie par une nouvelle conscience plastique. Le projet consiste en un rang de logement mitoyen dont la façade peut être développée à l'infini. Le rythme répétitif du projet, la coupe en gradins, l'imbrication des volumes en quinconce incarne la possibilité de concevoir une construction de masse et monumentale basée sur des principes plastiques purs. Significativement, la modularité de l'architecture de Hood, l'homogénéité de la trame qui la régule, la succession des séquences répétitives, se comprend dans un espace en perspective. Les représentations que Hood fait de son architecture sont effectivement prises dans un rapport de profondeur, simulent la perception d'un observateur depuis la rue. Ce choix délibéré rend explicite le fait que l'élément de référence est la perception de l'œil depuis la rue, c'est-à-dire l'idée de construire des rapports entre la proximité et le lointain, de simuler une visualisation de la profondeur. Simultanément, l'idée de la monumentalité de la ville prend corps dans un cadre juridique spécifique qui est porté par une politique publique de construction de logements et de régulation de la ville. En 1918, notamment, Hood, introduit par Berlague, Hood est un élève de Berlague, et Hood, introduit par Berlague auprès de la municipalité, rejoint l'architecte de la municipalité. La première opération que Hood réalise se situe au niveau du polder de Spangen, à laquelle feront suite successivement le projet de Tuschendischken, le Matenesse, Kiff-Eck et Eck von Holland. La stratégie territoriale d'extension de la ville en Hollande procède de façon schématique à assécher les marais, réaliser des polders et construire sur ces polders des blocs d'habitation. Les programmes de logement que construit Hood à Rotterdam, plus de 1000 logements entre 1918 et 1930, se posent donc en termes de typologie de cellules d'habitation et de morphologie urbaine. Avec, évidemment, derrière, la question de l'économie de la construction, standardisation des process. Cela guide ces stratégies d'expérimentation, évidemment, des techniques de production industrielle, et sur la base et sur l'idée de la reproductibilité des cellules de logement. D'un point de vue morphologique, la question et la composition linéaire des façades se heurtent à la question de leur retournement. Comment l'architecte peut réussir à conserver cette homogénéité de la façade alors même que, évidemment, le bloc se retourne et qu'il se trouve face à la question des angles. En l'occurrence, Hood développe des stratégies formelles pour organiser cette transition d'un plan à un autre de la façade. Son traitement en creux, en particulier, génère des effets plastiques d'articulation variés et organise véritablement la translation d'un plan à un autre. À Spangen, la première opération de logement est celle qu'il va réaliser en collaboration avec Van Despoor. Et là, Van Despoor, très à la recherche, à l'affût de collaboration, dans cette volonté de faire sortir la pratique de la peinture dans le champ social et dans la ville, va chercher des collaborations, et notamment avec Hood à Spangen à partir de 1920. Et toute la question, c'est que, en effet, la stratégie du peintre n'est pas du tout la même que la stratégie de l'architecte. Et en l'occurrence, l'une et l'autre peuvent se trouver contradictoires et voire même en opposition. Alors même que le problème de Hood est de générer l'image monumentale de la ville par une régularité ordonnée par le rythme horizontal et vertical, le projet de coloration de Van Despoor, lui, rejoue cette question de la composition orthonormée. Vous voyez que la coloration le projet de coloration de Van Despoor ici à gauche montre que la disposition de la couleur des baies ne suit pas forcément leur horizontalité et est bien plutôt organisée suivant un schéma diagonal. Cette tension montre bien que d'un côté, la couleur est un outil de construction spatiale qui se heurte en même temps à la pratique traditionnelle de l'architecte, en l'occurrence de Hood, qui lui cherche justement à affirmer la répétition. Pour le projet de Kifok et du Hog from Holland, la typologie intermédiaire entre la maison individuelle et l'immeuble collectif permettent le retournement des façades juste par un effet de cintrage. En outre, Hood met en place un double régime fonctionnel. Tant d'un point de vue de l'usage que d'un point de vue symbolique de la collectivité d'habitants. L'élaboration du plan masse repose sur cette dualité. D'une part, la relation entre les logements et la rue détermine l'image homogène, monumentale de la ville. D'autre part, le traitement de l'intérieur des cœurs d'îlots, puis en cour intérieure ou en jardin privatif, permet d'articuler finalement l'identité urbaine à l'échelle de la domesticité. Là, l'architecture de Hood est basée sur cette dualité entre le logement et la rue, entre l'industrie et la nécessité de protection de l'environnement des habitants. Ces deux images montrent cette dualité, cette double stratégie, où d'un côté on construit un cœur d'îlot qui protège et qui identifie la collectivité, et de l'autre côté, et à l'extérieur, côté rue, côté public finalement, on fabrique une image monumentale régulée par la géométrie. Ici vous avez les projets réalisés. La succession des projets que Hood réalise à Rotterdam entre 1918 et 1931 montre que cette intériorité du cœur d'îlot va progressivement être éclatée. Alors, au départ, on est plutôt sur des logements collectifs et Hood va plutôt vers la construction soit de logements individuels, mitoyens ou éclatés. Et finalement, cette question de la dualité entre l'intérieur et l'extérieur reste présente, même si Hood éclate d'une certaine manière l'îlot intérieur qui devient perméable avec la rue. Ici quelques images des projets de 1930 de Hug van Holland. Le second thème important qui traverse la conception urbaine qui est retranscrite dans la revue de Steyl est la question de la ville organique et de l'image d'utilité publique. Hood travaille à Rotterdam. Une autre plateforme importante se trouve à La Haye. À La Haye, où pratique un architecte qui s'appelle Jan Wills. Jan Wills contribue de façon significative à la revue au moment où, dans le même temps, il débute sa pratique libérale. Wills également est un élève de Berlag. Il a travaillé chez Berlag pendant un certain temps, et d'ailleurs un de ses associés, Pitzwart, dont on aura l'occasion de reparler cet après-midi, est également quelqu'un qui va travailler chez Berlag et va être le chef de chantier pour la construction du dernier projet de Berlag, qui est le Gemeente Museum à La Haye. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une communauté assez étroite. Berlag est une clé, finalement. Michael White nous l'a montré en début de séance. Chacun des architectes dont on parle porte en lui l'enseignement de Berlag, qui est l'aîné de ces jeunes architectes. Et Wills, chez Berlag, découvre l'architecture de Frank Lloyd Wright. En effet, après son retour des États-Unis en 1911, Berlag réalise une série de conférences sur l'architecture américaine. Et c'est en partie de la réception de l'œuvre de Frank Lloyd Wright que se rattache la conception organique de la ville que Wills développe. Comme pour Robert Van 't Hoff, un autre architecte lié à De Steyl à ses débuts, l'analyse de l'architecture de Wright est un support de débat et de positionnement critique qui constitue véritablement un axe éditorial de la revue de Steyl entre 1918 et 1919. Le café de Beuleu-Sleuteuil La double clé est explicite du positionnement de Wills. C'est le projet dont je vous montre ici des dessins de conception et ici une image du bâtiment réalisé. L'architecture est en premier chef une combinaison de volumes, c'est-à-dire une interaction plastique des volumes entre eux, une composition des masses, chacune étant des organes de l'habitation. L'idée que la conception architecturale procède d'une manipulation simultanée des trois dimensions est d'une certaine manière programmatique, ce faisant d'une contemporanéité de l'idée de la ville, la combinaison des volumes entre eux, l'arrangement clair des volumes, façonne un paysage, une image de la ville qui identifie d'une certaine manière le domaine public. Plus que la recherche d'une monumentalité régulée, qui est l'apanage de Hood, Wills conçoit des projets dont la singularité organise symboliquement la ville et articule spatialement la sphère du privé à celle des lieux publics. C'est le cas en particulier pour une opération urbaine d'échelle moyenne, pas aussi grande que les opérations que réalise Hood à Rotterdam, mais néanmoins une opération réellement urbaine, qui est le complexe résidentiel de Dahlemberg. Pour ce projet, la référence à la cité-jardin est explicite, ce qui n'est pas vraiment le cas chez Hood, et trouve son origine d'ailleurs dans le programme de l'opération, une soixantaine de maisons familiales destinées à la classe moyenne. L'enjeu et l'échelle du programme le permet ici. Il s'agit de construire l'identité d'un nouveau quartier par la déclinaison d'une variété de modèles d'habitation. Wills conçoit un plan avec 68 maisons de ville organisées autour d'un parc. Vous avez ici en haut à droite le plan masse, donc organisé autour d'un parc d'environ 70 mètres par 100 mètres. La symétrie des constructions, leur articulation par les angles, le positionnement deux par deux et dos à dos des habitations, et l'expression marquée des mitoyennetés, vous voyez les refends qui rythment les rangs, donnent lieu à des événements architecturaux et sont ici les outils qui permettent de construire une variété de situations urbaines, spatiales, qui façonnent l'image urbaine. Simultanément à l'élaboration du projet du Papa Verhoef, les échanges entre Jan Wills, Vilmos Huszár et Pietzwart, tous trois implantés à La Haye, constituent un petit groupe qui, dès 1920, prend ses distances vis-à-vis de Vandenbourg et ouvre le champ à de nouvelles expérimentations. Nouvelle expérimentation dont ici on a un projet non réalisé qui est un projet de résidence de femmes seules à Papa Verhoef. Ici encore, même s'il s'agit d'un intérieur, on est dans un espace public magnifié par cet atrium. Wills aborde intuitivement le programme industriel, le programme d'équipement industriel et la question de l'usine, de l'entrepôt, à la fois dans l'évaluation de son impact dans la ville, mais également comme un objet singulier et identifiant. Le collaborateur de Wills, Pietzwart, travaillera notamment, par exemple, pour la firme Brinzel, dont Michael White nous a parlé tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, pour la firme Brinzel, qui est l'annonceur historique de la revue et pour laquelle Wills fera un projet d'usine. Ici, le projet que je vous montre, qui date de 1919-1920, n'est pas le projet de la firme Brinzel, mais est un projet finalement théorique qui ne sera pas construit, mais qui cherche, on le voit, à construire une identité visuelle de ces objets a priori banalisés que sont des entrepôts. Pietzwart et Huszár, quant à eux, posent les bases d'une nouvelle discipline qui est à la croisée de l'aménagement intérieur, de l'architecture, du graphisme et de l'urbanisme et qui repousse finalement chacun d'entre eux, repoussant les limites conceptuelles de leur pratique disciplinaire et interroge l'idée d'image d'utilité publique. La conception de mobilier urbain, pour Pietzwart, par exemple. Ici, vous avez un exemple d'une enseigne publicitaire qui va être installée à Paris, d'ailleurs, dans un café que Pietzwart réalise, le café Léo Faust, rue Pigalle, aujourd'hui malheureusement détruit. Donc la conception de mobilier urbain pour l'un et la campagne publicitaire pour la marque de cigarettes Miss Blanche pour Villemot Souchard font partie de ces stratégies d'inventer une nouvelle discipline qui va vers ce que l'on appelle aujourd'hui une image d'identité publique. Villemot Souchard va même jusqu'à inventer des objets assez curieux, des supports de communication déambulatoires, publics et urbains, qui sont ici véritablement des matérialisations de ce que Villemot Souchard théorise, ou tout au moins pose, dans la revue IDIS, dont nous a parlé Michael White tout à l'heure, avec cette idée de la publicité comme un élément de construction plastique significative dans la ville. De réclame as beldende Kunst, c'est-à-dire la publicité comme un art plastique, finalement. Oud lui-même n'est pas étranger à cette question de la publicité. Je n'ai pas forcément le temps ici de développer plus avant, mais lors du chantier d'une des grandes opérations qui s'appelle celle du Matenessé, dont je vous ai montré une vue aérienne tout à l'heure, Oud construit une prétendue maison pour le chef de chantier qui est érigée pendant la construction de l'opération. Et vous voyez que cet objet est un objet singulier, un objet qui fait un appel, sa polychromie, justement, le rend un objet publicitaire. Finalement, c'est plutôt un cabanon qui annonce la construction prochaine de cette opération de logement. Le projet manifeste et clair de Oud est le Café des Unis qu'il réalise à Rotterdam en 1925, où là, il y a une fusion claire et définitive entre la typographie, la couleur, mais et l'architecture, ces trois éléments constituant finalement une véritable affiche. La façade du bâtiment est une affiche publicitaire pour ce café et identifie finalement ce café dans la ville. De la ville monumentale, on passe simultanément, de façon toujours assez croisée et simultanée, à l'idée émergente d'une image d'utilité publique. Le troisième thème que je souhaite vous proposer est un thème générique qui traverse les années 20 chez De Stijl. C'est l'idée de la cité de circulation comme un espace expansif. À partir des années 20, la physionomie du Groot De Stijl se transforme et trouve évidemment une configuration perméable aux avant-gardes européennes. Simultanément, l'activité éditoriale de Vandesbourg s'intensifie, pas seulement dans la revue De Stijl, mais il écrit dans toutes les grandes revues européennes, et notamment dans une revue d'architecture hollandaise, Het Bouwbedrijf, où il tient une chronique sur l'architecture en Europe. Évidemment, l'exposition en 1923 à la Galerie de l'Effort Moderne, dont je vous montre ici une image des dessins les plus significatifs que Vandesbourg et Van Esteren présentent, contribue à l'identification et à la réception européenne de De Stijl. Tout au moins, effectivement, à des liens d'amitié, de proximité qu'il peut lier. On pense par exemple à Malestévins qui, suite à l'exposition de 23, ou simultanément propose à Vandesbourg de réaliser une polychromie pour la Villa Noailles à Hyères. Mais c'est probablement en 1925, à l'exposition des arts décoratifs de Paris, que se marque un point crucial, un tournant décisif pour le mouvement De Stijl et pour cette conception urbaine de la ville portée par le mouvement De Stijl. Alors même que les artistes de De Stijl, les créateurs, se trouvent écartés du pavillon hollandais, Vandesbourg est convaincu que l'État hollandais lui confiera l'aménagement du pavillon hollandais. Il n'en est absolument rien, et c'est l'école d'Amsterdam qui va avoir en charge de représenter la Hollande à l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Alors même donc que l'école d'Amsterdam est présente dans le pavillon hollandais, que Le Corbusier présente au public son plan pour Paris, le fameux plan pour une ville de 3 millions d'habitants, l'influence du néoplasticisme émerge de façon incidente au sein de la contribution autrichienne. C'est évidemment l'installation de Friedrich Kiesler au Grand Palais qui fait date. Devenue depuis iconique d'une certaine manière, l'installation de Kiesler est conçue dans un premier temps comme la scénographie d'une exposition sur l'architecture du théâtre. En 1924, Kiesler fait une exposition sur l'art du théâtre en Autriche. Et Joseph Hoffmann, l'architecte viennois, de la même génération que Berlang, ayant tout à fait remarqué l'importance de l'exposition de Kiesler, lui propose de déménager d'une certaine manière cette installation à Paris pour l'exposition de 1925. À cette occasion, Kiesler invente un nouveau dispositif scénographique qui est cet objet singulier. « Vous avez fait ce que nous rêvions tous de faire », aurait dit un jour Théo van Doesburg à Frédéric Kiesler, lorsque les deux hommes se rencontrent dans la salle « L'art du théâtre en Autriche ». De fait, l'impact visuel de la cité in space, tout comme l'expérience spatiale que cet objet offre aux visiteurs, va bien au-delà d'une simple scénographie, et la manière dont Kiesler va organiser la réception de cet objet, sa publication, sa diffusion, contribue à en faire un objet iconique du néoplasticisme. Au départ, et on le voit encore dans certaines photos d'époque, on voit bien que la cité in space, sur cet objet, sur cette scénographie, on a des maquettes, on a des plans qui sont affichés. Mais progressivement, enfin, de façon... pas progressivement, en fait, tout de suite, dès l'ouverture de l'exposition de 1925, Kiesler va accorder beaucoup plus d'importance à cette scénographie, à cet objet, que à ce qu'il supporte et à ses maquettes l'art du théâtre. De fait, l'objet, par sa taille, par les principes de moise proches de ceux mis en place par Rietveld, qui permettent de faire se prolonger les éléments de charpente bien au-delà des intersections, donne à appréhender un espace en expansion, infini et affranchi des principes de l'apesanteur. Kiesler s'empresse, dès 1925, d'en formuler un contenu à la fois plus théorique et polémiste. Et Dan de Staël écrit une sorte de manifeste, dont je vous donne ici l'introduction. « Construction vitale, ville-espace, architecture fonctionnelle, la nouvelle forme de la ville née sous la contrainte de la nécessité, la ville-campagne, parce que la séparation de la ville et de la campagne est abolie, la ville-temps, parce que le temps y est la mesure de son organisation spatiale, la ville-espace, parce qu'elle flotte librement dans l'espace, qu'elle est en fonction du territoire, décentralisée de façon fédérative. La ville-automatique, parce que la gestion quotidienne y est mécanisée. » Ce programme résume l'enjeu que pose la ville contemporaine industrielle et dont cet objet énigmatique tend à répondre de façon programmatique, finalement. Et ce que propose Kiesler à Paris, c'est en quelque sorte une transfiguration en termes plastiques des enjeux urbains, dont le nœud principal est la temporalité, le déplacement que modifie radicalement la mécanisation de l'environnement. Kiesler, évidemment, pressent ces enjeux. Et il poursuivra pendant l'année 25 à donner forme par des constructions spatiales génériques qui portent symboliquement ces enjeux. Il publie d'ailleurs en France des articles qui justement cherchent à donner corps, enfin à faire publicité de cette idée. Un architecte viennois propose de bâtir des maisons dans l'air. Ou alors... dans le New York Herald Tribune, Artists Plan City in Air. Cette idée que la ville doit s'affranchir du sol, que la ville doit être linéaire, que la ville doit se flotter dans les airs et qu'elle doit être une ville spatiale. Mais Kiesler continue à travailler cette question de la spatialité et cette question de l'extension, finalement, de la ville, à travers des projets toujours assez théoriques. C'est le cas en 1925, ici pour l'image à gauche, d'une, d'une ville, d'un projet d'aménagement pour la place de la Concorde. C'est également ici à droite pour l'idée de ce gratte-ciel en spirale. Ou alors ici en 1930 pour l'idée d'un gratte-ciel horizontal où on voit que c'est la linéarité horizontale qui est ici le développement, enfin qui porte ici le développement de la ville. Comme la cité in space, ces projets se présentent comme des modèles génériques, finalement comme des modèles formels, et explorent des potentiels formels d'un espace infini, horizontal pour l'un, vertical pour l'autre, en spirale pour le troisième, plus que l'expression d'un ensemble de fonctionnalités à proprement parler. Kissler pose ici les jalons de ce qu'il appelle une construction vitale, une ville spatiale, une élasticité de la construction adaptée à l'élasticité de la vie. Ce qu'explore Frédéric Kissler, et de façon abstraite et décontextualisée, ce sont bien des dispositifs, des potentiels plastiques, des machinations, d'une certaine manière. La cité dans l'espace, c'est une machine à voir l'architecture, qui instruisent la question des relations spatio-temporelles de la ville moderne, des rapports de distension que génèrent le déplacement, le mouvement, la circulation, bref, des systèmes de tension dans l'espace, qui repose sur cette idée de se détacher de la Terre et de supprimer l'axe statique. Ces questions de la circulation est fondatrice chez Theo van Doesburg, qu'il aborde par la conception précisément de la cité de circulation. Van Doesburg explicite le projet et postule que le projet de cette cité de circulation et postule que la solution la plus radicale aux embouteillages est de rompre les murs des rues, de laisser entrer l'air et la lumière et de se servir de la troisième dimension pour s'élever littéralement vers le ciel. Dès 1925, dans les colonnes justement de Het Bouw Bedrijf, Van Doesburg identifie d'ailleurs la cause de la congestion de la ville moderne comme étant la centralisation. Et le concept pour Van Doesburg, lié à l'idée de la cité de circulation, c'est l'idée de la décentralisation précisément. Et c'est d'ailleurs cette idée de la décentralisation qui le guide à émettre des réserves sur la ville des 3 millions d'habitants de Le Corbusier, qui, il en convient, est une étape nécessaire. Il convient qu'effectivement ce projet est efficace en termes de décongestion, mais qui cependant ne modifie pas radicalement la culture de la centralisation. Vous vous souvenez que la ville de 3 millions d'habitants, au centre se trouve le quartier d'affaires, en périphérie se trouvent les espaces résidentiels. Donc véritablement, la cité de circulation de Theo van Doesburg, c'est la volonté d'affirmer une ville décentralisée, une ville qui détruit d'une certaine manière le réseau viaire et qui repose, comme le montrent ses dessins, sur la juxtaposition de tours uniformément réparties sur une grille infinie et qui ouvre d'une certaine manière la ville de tous les côtés, apportant une alternative à ce que Van Doesburg appelle la cité frontale. Au contraire de la cité frontale, dont les constructions émergent du sol, la cité de circulation libère le sol et laisse supposer d'ailleurs un système de transport aérien par câble tendu. Tout comme la cité in space de Kissler, l'enjeu pour Van Doesburg est de se libérer des contraintes de la fondation et, ce faisant, d'inventer une typologie constructive d'immeubles dont le corps principal est suspendu à une structure de 4 piliers. C'est ici l'image de gauche. Ces piliers permettent les circulations verticales et desservent des plateaux disponibles qui font de fait l'édifice une infrastructure. C'est peut-être ce qui fait le paradigme subséquent de la cité de circulation, une infrastructure disponible, ouverte, non orientée et décentralisée. Évidemment, l'idée d'infrastructure n'est pas étrangère à cet autre acteur important qu'est Georges Van Tongerlo. Elle incarne en premier lieu un concept mathématique chez Van Tongerlo, celle de l'équation différentielle, dont les tableaux empruntent leur titre à partir de 1928. Pour Georges Van Tongerlo, la fonction hyperbolique est plus qu'une métaphore, mais bien comme l'a démontré par ailleurs Marek Wieczorek, une fonction vitale. La vie reste le mouvement perpétuel et va vers l'asymptote. L'équation différentielle qui génère chaque tableau de Van Tongerlo est proche de celle qu'utilisent les ingénieurs pour calculer les courbes des ouvrages des structures métalliques. Le projet d'aéroport pour armature démontre d'ailleurs l'ambition de Van Tongerlo de visualiser des structures tridimensionnelles à partir de ces équations. Ici, il s'agit d'un projet de pont sur l'Escaut à Anvers. Et Van Tongerlo pense donc cette idée de mégastructure de très grande dimension. En l'occurrence, ici, un cantilever de plus de 370 mètres de long au centre de Paris, au-dessus duquel est implanté un plateau destiné à recevoir un aéroport urbain et une piste d'atterrissage. Le programme que Van Tongerlo propose, d'ailleurs au ministère de l'Aviation, intègre cette idée d'un espace expansif, en l'occurrence ici celui du déplacement aérien dans l'environnement bâti. Les dessins de conception de l'aéroport montrent un objet hybride, finalement, un fragment de ville, par la dimension et la répartition de programmes de commerce et de logements tout autant qu'un objet technique. L'ambition de Van Tongerlo est bien de faire coïncider la volumétrie du bâtiment au principe génératif qu'il avait jusqu'alors expérimenté pour ses sculptures. La déclinaison des types d'aéroports, le projet d'une ville gratte-ciel de 1930, ou le pont pour Anvers que je vous ai montré tout à l'heure, en sont ici les développements et génèrent des situations urbaines singulières et donnent lieu à l'expression d'une imagerie de la ville, de ses flux et de ses fonctions à venir. Le dernier thème qui identifie cette question du domaine de la ville pour les artistes de Steyl est le thème de la ville de l'industrie régulée. La célébration du 10e anniversaire du groupe de Steyl est l'occasion pour Van Desburg de produire un numéro spécial qui regroupe les projets marquants des protagonistes du groupe et permet de faire se confronter de nouveau les opinions souvent divergentes de chacun d'entre eux. C'est la même année, en 1927 d'ailleurs, que Mondrian publie un texte qui inaugure le premier numéro de la revue IDIS, dont Michael White vous a parlé tout à l'heure, et que Van Esteren, dernier acteur essentiel dans ce dispositif de Steyl, engage un cycle de conférences en Allemagne dont la teneur démontre précisément cette volonté d'aller au-delà de l'architecture et de s'engager dans la fabrication de la ville. C'est également la même année que Oud est convié par Mies van der Rohe à participer au Weissenhof Siedlung de Stuttgart. À Stuttgart, Oud confirme son investigation approfondie dans la conception du logement à partir de la juxtaposition des cellules élémentaires et la standardisation des composants industriels. Un an après l'inauguration du Weissenhof, en 1928, se tient le premier congrès international d'architecture moderne au château de la Sarraze, où De Steyl est représenté par Gerrit Rietveld. C'est à ce fameux premier congrès de 1928 auquel Berlag assiste, et auquel Berlag d'ailleurs, pour lequel Berlag est extrêmement critique, et Michael White nous en a parlé tout à l'heure, à tel point d'ailleurs qu'il refuse de figurer sur la photographie qui livre à la postérité les participants au congrès de la Sarraze. En 1930, le second Siam se tient à Bruxelles, et c'est précisément Cornelis van Esteren qui le préside. Le SIAM, puissant médium de communication et de relations publiques, est l'occasion pour Van Esteren de présenter le plan d'extension d'Amsterdam dont il est en charge depuis 1928. Van Esteren, c'est en 1921 que Cornelis Van Esteren, alors architecte et diplômé, remporte le prix de Rome et engage un voyage en Allemagne et en Scandinavie. La rencontre avec l'architecte urbaniste Fritz Schumacher le renforce dans le choix dans le choix de l'urbanisme comme pratique de l'architecture. La même année, il rencontre à Weimar Vandesbourg, qui également, lui, Vandesbourg, le conforte dans l'idée du rôle déterminant de la question de l'espace dans la planification urbaine. Suit l'année 1923, où Van Esteren se consacre presque exclusivement à la préparation des maquettes et des dessins de l'exposition de l'effort moderne avec Théo Vandesbourg. Dès lors, installé à Paris, Van Esteren suit les cours de Marcel Poète et de Léon Jossely. En 1925, Van Esteren répond au concours pour l'aménagement. À partir de 1925, Van Esteren répond à une série de concours urbains, dont le premier en 1925 est le projet pour l'aménagement du canal Rokin à Amsterdam, dont il est prévu le comblement. Sa proposition porte significativement la devise élémentaire. Le dessin que je vous montre ici, c'est précisément cette idée d'un urbanisme élémentaire. Et porte principalement sur les stratégies pour rendre possible la circulation automobile à l'intérieur de ce quartier d'Amsterdam, le projet étant le comblement du canal pour permettre justement la circulation automobile d'innerver cette partie-là d'Amsterdam. Dès ce concours, Van Esteren franchit le cap d'une pensée urbaine dont l'enjeu n'est plus de traiter la question des façades, ou la question de l'image de la ville, mais de travailler à partir de gabarits, d'épures géométriques, articulées les unes aux autres. L'enjeu est basé sur les principes élémentaristes et clairement la distribution des masses dans l'espace dans le but précis d'atteindre une fonctionnalité du dispositif de circulation. La réponse en 1925 également au concours pour l'aménagement de l'avenue Unter der Linden à Berlin constitue une formalisation plus aboutie de ces principes élémentaires. C'est à partir de cette date que Van Esteren convoque l'idée d'équilibre, Gleichgewicht, en relation avec celle de paysage urbain. De la même manière que l'architecture est la combinaison de volumes, la ville aussi procède de cet équilibre, procède de cette composition des masses dans l'espace. Le concours que je vous montre ici à gauche, le concours pour le Unter der Linden à Berlin, vise justement cet équilibre formel général des formes. Le projet pour Berlin est basé sur la manipulation d'un vocabulaire formel élémentaire, qui, ce faisant, travaille les changements d'échelle. La hauteur des immeubles est maximum afin d'utiliser le plus possible d'espace disponible. Les lots sur chaque parcelle trouvent leur homogénéité les uns par rapport aux autres par l'alignement et par le traitement uniforme des rez-de-chaussée. La circulation automobile est dissociée de celle des piétons. Une tour, néanmoins, vient en contrepoint, vous la voyez au fond de la perspective, vient donc en contrepoint de l'horizontalité des immeubles de l'avenue et génère formellement un effet de compensation. Il est nécessaire juste de faire une rapide parenthèse sur cette question de la représentation. On a vu que Oud, pour les projets de logement, utilise presque exclusivement la perspective comme outil de conception et de visualisation de l'architecture et de la ville. Van Esteren, lui, fera un usage presque systématique de l'axonométrie. L'axonométrie, de ce point de vue-là, concrétise la représentation de ce qu'il nomme un fonctionnalisme visuel. La projection axonométrique élimine le point de vue unique et évacue toute subjectivité dans la représentation et s'apparente à un dessin mécanique qui donne à lire des articulations. Si la nouvelle architecture est élémentaire, économique et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle trouve son origine dans un état précis des nécessités pratiques posées sur le plan, je cite là Van Desbourg, la représentation axonométrique est l'outil par lequel l'illusion d'optique est le plus clairement écartée. Le centre de projection étant situé à l'infini, l'espace de projection axonométrique permet de rendre compte du parallélisme des plans et permet, ce faisant, d'objectiver les relations géométriques. Loin de supprimer les effets de profondeur, l'axonométrie ramène ces relations dans un champ qui n'est pas celui de l'illusion et permet d'instaurer une distanciation avec l'objet représenté. Ce mode de représentation se généralise chez Van Esteren et chez d'autres architectes. En 1928, Van Esteren, je vais conclure, est choisi pour, comme concepteur principal de l'équipe d'architectes d'urbanisme pour le plan général d'extension d'Amsterdam. Ce plan est basé sur une projection démographique et sur une estimation du calcul des superficies de terrain nécessaires pour les logements. Et c'est sur cet élément que je vais terminer finalement. Sur ces deux images qui comparent en 1905, l'image du haut, le plan d'extension fait par Berlag, et en bas, le projet de plan d'extension proposé en 1928 par Van Esteren. La méthode qu'utilise Van Esteren repose sur le relevé de l'existant. Le fonctionnalisme repose ici sur l'analyse de l'ensemble des fonctionnalités urbaines, ces fonctions devenant des variables interdépendantes les unes des autres. La tâche de l'urbanisme est finalement une tâche de programmeur. Il programme les développements futurs de la ville et en aucune manière, finalement, la question de la monumentalité ou de la construction d'une image n'est plus à l'ordre du jour. En tout cas, dans cette idée de programmation de l'espace de la ville. Cette démarche rappelle ce que Van Desbourg et Van Esteren, en 1924, avaient posé théoriquement dans le manifeste qu'ils signent tous les deux. La nouvelle architecture ne peut reconnaître aucune structure formelle préconçue. Ce n'est pas un moule dans lequel on coule les besoins fonctionnels de l'homme, mais c'est une matrice à multiples variables. L'objectif des urbanistes est de créer des conditions pour le futur développement architectural, de produire un catalyseur pour la création un tissu de relations variables. Le constructeur moderne rend visible des relations de programmes et non des relations d'objets architecturaux eux-mêmes. Je vous remercie. La seconde intervention est conduite par Roxane Joubert. Votre titre, c'est « Le style typographique, un trait d'union ».